Monsieur Ursule Agingo Gringo, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Ngendi.
Depuis la session la primature de Firmin Grébada, quel bilan peut-on établir durant 2 ans en tant que chef de gouvernement?
La première des choses, c'était de faire taire les armes dans notre pays qui avaient trop duré. Et la seconde, c'était notamment de remettre notre pays sur la voie du développement. C'est ce qui a amené en fait à la signature de cet accord de paix qu'on nomme nommément l'APPR-RCA. Et pour aller dans ce sens, récemment lors de la dernière réunion du secrétariat de suivi de l'accord, il était noté en fait une baisse des violences de 17%. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est derrière ces chiffres, en fait, ce sont des personnes, ce sont des vies humaines qui sont épargnées, ce qui n'est pas négligeable. On peut noter également qu'aujourd'hui, on est mi-parcours pour faire le bilan de cet accord. On voit aujourd'hui que notre armée est sur l'ensemble du territoire, l'armée à Cacabandro, l'armée est à Ndélé. L'armée se trouve aujourd'hui à Berbérati, à Boire, entre autres. Donc pour moi, ce sont des avancées en fait, qui sont vraiment notables. Quelle était la vision du gouvernement? Le gouvernement, lors de la signature de ces accords, a tenu la totalité de ses engagements. Chose qui n'était pas le cas en fait par le passé, on peut le noter.
On y revient sur cette partie. Le Premier ministre assure la présidence du comité stratégique. Or, sur le terrain, des dysfonctionnements sont enregistrés de part et d'autre. Est-ce que le gouvernement réussira le pari d'organiser les élections apaisées?
Ça, c'est l'objectif premier du président de la République et du gouvernement que dirige son Excellence Firmin Grébada. Avant tout, en fait, il est pour moi nécessaire de revenir sur un élément. Le premier, c'est qu'on n'a pas fini, en fait, au niveau de l'accord, certaines avancées qui sont notables et je pense que
Mais avec des dysfonctionnements, oui.
Tout à fait. En fait, j'étais en train de revenir sur le premier point.
Répondez à la dernière question.
Je vais revenir, monsieur Anguille. Je pense qu'il était vraiment important pour nos concitoyens, pour vos auditeurs, de savoir, en fait, de voir ce qui est fait au quotidien et je me permettais de faire un témoignage en voyant les choses de l'intérieur, en voyant ce qui est fait. Et je pensais que c'était quand même nécessaire que nos compatriotes puissent être informés de ces éléments.
Oui, mais vous n'avez pas encore répondu.
Je vous écoute.
Le Premier ministre assure la présidence, comme je le disais tantôt, du comité stratégique, des dysfonctionnements sur le terrain, l'insécurité persistante encore dans certaines zones de la République centrafricaine. Est-ce qu'on peut espérer à une élection apaisée dans ce pays?
C'est l'objectif. Le comité stratégique, son rôle, c'est d'appuyer l'ANE, qui est un organe qui est totalement indépendant et autonome, de l'appuyer en fait de quelle façon, au niveau financier, s'il y a des manquements. Aujourd'hui, dans le cadre de mes fonctions en tant que chargé de communication du Premier ministre, j'ai eu l'opportunité en fait d'assister à certaines réunions du comité stratégique d'appui aux élections, au processus électoral. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces dernières réunions? Les informations de l'ANE étaient très claires. L'ensemble des opérations d'enrôlement ont pu se tenir à l'heure actuelle. À Bangui, en fait, moi, ce que je voudrais noter et mettre en avant, c'est le fort taux de participation des femmes. À Bangui, sur plus de 258 000 inscrits, je pense, on est à plus de 43% de femmes. Je pense que c'est vraiment un effort à saluer, ce qui ressort, en fait, des responsables de l'ANE. Mais ces difficultés, en fait, ils les expliquent de certaines façons, des impondérables. Par exemple, les fortes pluies qui ont impacté, en fait, le déplacement en fait, des agents tablettes, qui ont empêché également les agents qui étaient chargés de s'occuper du paiement, en fait, des équipes sur le terrain. Ça les a ralentis dans les opérations, ou encore la lourdeur en faire des procédures bancaires qui a ralenti, en fait, le paiement des agents sur le terrain. Mais dans l'ensemble, c'est que les opérations se sont plutôt bien passées et que les choses avancent dans le bon sens.
Vous le savez très bien que l'ANE est l'organe technique, mais c'est le gouvernement qui organise les élections.
Le seul organe qui est chargé d'organiser les élections.
Et l'organe technique, c'est ce que je dis.
Effectivement, oui. Chargé d'organiser les élections. Maintenant, au niveau politique, le gouvernement a mis plusieurs choses en place pour que les choses puissent se passer de la meilleure des façons. Je pense au plan de sécurisation des élections qui a été mis en place.
Mais oui, mais vous le savez qu'il y a quelques semaines, hein, dans l'Ouampende Akoui, votre homologue conseiller du Premier ministre, Abassi Diki, a sommé les agents recenseurs et certaines populations de quitter les localités qu'ils contrôlent pour ne pas s'enrôler.
Les faits, en fait, aujourd'hui, donnent raison au gouvernement. Vous avez pu constater que le Trésor américain l'a mis sous sanction. C'est la même chose, en fait, de la part des Nations Unies. Il est sous sanction. Pour le gouvernement, force doit rester à la loi, monsieur Yandendi.
Force doit rester à la loi, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Premier ministre, en tant que patron des Sidiki, patron de Ali Darassa, de mettre la main sur ceux qui sont en train, par exemple, de mettre à terre l'accord de paix de Khartoum?
Vous parlez de deux situations qui sont tout à fait différentes. Donc, dans un premier temps, il y a les 3R et monsieur Sidiki. Aujourd'hui, en fait...
Sidiki et Ali Darassa jouent le même rôle.
J'en reviens. Donc, dans un premier temps, l'article 35 est totalement dans sa phase opérationnelle concernant les 3R. Le but de l'opération est de réduire sans condition les 3R, en fait.
Après 3R, on espère sur l'UPC d'Ali Darassa.
Concernant l'UPC d'Ali Darassa, je condamne toutes ces violations. Les violations, il y a un mécanisme, en fait, spécifique pour traiter, en fait, ce genre de cas dans le cadre de l'accord. Et ça se fera, en fait, dans le cadre de l'accord.
Parlons de Ali Darassa. Au sortir de sa rencontre avec le gouvernement, il a publié donc un communiqué controversé évoquant une pression. Pourtant, il reste encore hein, ministre conseiller auprès de Firmin Grébada. Si réellement pression il y a, pourquoi ne pas le licencier de son poste pour le fragiliser?
Un État n'agit pas comme un groupe rebelle ou un groupe d'ex-rebelles et ça va me donner...
Mais vous l'avez dit que la force recèle la loi.
Exactement, exactement. Le but du huis clos, c'était de reproduire les conditions qui s'étaient produites avec M. Abdoulaye Sène au niveau en fait de la région de Bambari. Pour quelle raison? Pour dans un premier temps sécuriser le processus électoral, tous les acteurs du processus électoral pour les sécuriser, pour dénoncer également en fait les alliances contre nature entre les différents groupes rebelles, ainsi que l'utilisation de mines antipersonnelles. Et maintenant, moi, j'entends les critiques, je les comprends, mais ce que je veux dire, ces personnes qui critiquent, sont-elles contre la dénonciation des alliances contre nature entre les groupes rebelles? Est-ce qu'elles sont contre le fait que tous les agents du processus électoral puissent circuler, enfin les acteurs puissent circuler? Est-ce qu'elles sont contre ça? C'est ce que je voudrais savoir.
Monsieur Aguingo, oui. Le député Demboki et docteur Bekwe ont été molestés par les hommes de l'UPC et de Ali Darassa. Votre homologue conseiller auprès du Premier ministre, le gouvernement fait-il profil bas sur la question sécuritaire à l'orée des élections?
Je ne le pense pas. Automatiquement, les autorités ont sommé l'UPC en fait, de pouvoir le libérer ainsi que ses équipes.
Sommé et non sanctionné.
Sommé. D'accord. Ont sommé l'UPC de libérer M. Bekoy ainsi que ses équipes. Chose qui a été faite dès le 15. M. Bekoy et ses équipes actuellement sont en santé, ils sont en vie, ils sont sous bonne garde de la MINUSCA.
Mais est-ce que cette action qu'a posée Ali Darassa, pourquoi le gouvernement ne peut pas profiter pour mettre la main sur Ali Darassa, puisque c'est une violation flagrante de cet accord de paix?
Là n'est pas la question, monsieur Yanedi. La question, c'est une violation de l'accord de paix que je condamne, que nous condamnons.
Que dites-vous à certains Centrafricains qui pensent qu'aujourd'hui, le gouvernement dorlote certains groupes armés et chicote d'autres? Qu'en répondez-vous?
Concernant ces questions, beaucoup de choses fausses ont été dites, et beaucoup sur vos antennes. Beaucoup de choses fausses ont été dites.
Par exemple
Je ne vais pas les citer.
Non, un exemple, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Un exemple peut aider nos auditeurs.
Là n'est pas mon rôle, monsieur Yanedi. Essentiellement, je comprends en fait les interrogations, mais ces questions seront traitées dans le cadre de ces mécanismes.
On n'est pas encore dans le moment T de la campagne électorale. Comment appréciez-vous aujourd'hui des meetings qui se font dans des quartiers, des banderoles, des effigies de certains candidats, à l'occurrence du président de la République, aux abords de la rue de Bangui?
Monsieur Yanedi, déjà, permettez-moi de contester cette interprétation des choses. Et
ce n'est pas une interprétation.
C'est mon droit de le contester.
Ça c'est votre droit, mais ce n'est pas une interprétation.
Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est quoi en fait? Aujourd'hui, on est une période où la moralisation de la vie publique est importante. La transparence, les questions de transparence sont très importantes. Et quand j'ai vu des Centrafricains, des jeunes Centrafricains, poser des questions à certains dirigeants qui ont géré en fait la chose publique, leur demander mais comment les choses se sont passées dans le passé, sur vos antennes, j'ai vu certains dirigeants en fait les insulter, tenir des propos d'une violence qui est vraiment...
Vous parlez de qui, par exemple?
Je finis, monsieur. Des propos d'une violence vraiment inouïe.
Non,
ça ne se passe pas sur nos de moutons.
Non, je vous dis, on n'insulte pas sur Radio Ndeke Luka.
Monsieur, je suis un auditeur fidèle de vos émissions.
Je vous dis que ce n'est pas sur nos ondes.
Je reconnais la qualité de vos programmes.
Je vous dis que ce ne sont pas des injures. Nous n'acceptons pas, même vous aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous donner le micro d'insulter. On ne peut pas laisser ça.
Effectivement, donc à ce niveau, on est tout à fait d'accord, mais ce sont des propos en fait qui ont été tenus sur vos antennes.
Non, mais nous savons, nous faisons notre travail, nous savons que ce n'est pas sur nos ondes. Juste pour vous rappeler et que vous revenez sur le débat avec vous tout à l'heure.
D'accord, allez-y, monsieur.
Merci. Comment expliquez-vous, monsieur, le mutisme du gouvernement face à la plainte des Centrafricains et des députés sur le frais à payer pour la délivrance des cartes d'identité?
Il n'est pas de mon ressort en fait de me prononcer en fait sur une procédure, sur des décisions en fait émises par les députés. L'Assemblée nationale a pris certaines mesures, il faut les respecter.
Mais selon vous, entre un décret et une loi, qu'est-ce qui prime?
Selon moi, en fait, il y a la séparation des pouvoirs et je ne vais pas me prononcer sur ces questions.
Monsieur Ursule Aguingo Grimbo, merci.
Mais c'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée, monsieur Anidi.